aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de O2 Radio, la radio des Hautes-Garonne, 91.3 de la bande FM et sur internet o2radio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui nous recevons Dominique Maléan qui va nous parler de quel chien pour quel mode de vie. Bonjour mesdames, bonjour Dominique, bonjour Juliette, comment allez-vous ?
Je prenais le temps de répondre en fait. Bonjour à tous. Ça va pas mal.
Ouais, et toi Dominique ?
Oh, ça va très très bien, je suis ravie d'être là, comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Presque
comme d'habitude. Alors ça marche. Et bien justement, est-ce que tu peux quand même te présenter pour nos auditeurs qui nous écoutent en quelques mots ?
Ok, écoute avec plaisir. Donc Dominique Maléran, vétérinaire, à la retraite depuis quelques mois maintenant. Et j'ai créé un service d'urgence sur Bordeaux qui s'appelle Veto Adom Gironde, qui continue à exister, et donc 24 heures sur 24, un vétérinaire peut se déplacer sur Bordeaux et 30 km à la ronde pour venir s'occuper de vos animaux en urgence. Et depuis, je continue une activité que je développe depuis 20 ans en phytothérapie, c'est-à-dire de conseils et de propositions de produits essentiellement à base d'aloe vera pour notre santé et celle de nos animaux.
Ça, c'est trop bien. Eh bien, on va faire tout de suite notre première pause musicale. Donc, tu nous as gâtés, n'est-ce pas, dans le choix des chansons. Alors, tu m'as dit comment ça se prononçait. Merci à toi. Chimbalayé de Maria Gadi.
Ah, mais c'est pas de l'espagnol, Valérie. Tu pensais que c'était de l'espagnol.
Ah oui, non, mais moi, je suis nulle en langue vivante. Hein.
Merci, en tout cas, de proposer qu'on puisse choisir des musiques. Merci.
De rien.
Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Dominique Malleyrand nous parle de quel chien pour quel mode de vie. Alors, Dominique, dis-nous, penses-tu que le choix d'un chien dépend du mode de vie de son propriétaire déjà ? Ou peut-être as-tu remarqué dans ton métier que le choix de la race de chien était parfois inadapté par rapport au mode de vie de l'humain qui s'en occupe ? Dis-nous tout.
Bah, effectivement, c'est ce qui m'a interpellée souvent pendant ma carrière. Et encore maintenant, quand j'échange avec des personnes qui ont des chiens, c'est que trop souvent, j'ai envie de dire, le choix du chien, de la race du chien, n'est pas forcément adapté au mode de vie de son propriétaire. Le choix se fait davantage sur un coup de cœur, ou de la morphologie, ou l'idée qu'on se fait du chien, mais pas forcément son besoin à lui en termes de mode de vie. Et je trouve que c'est important de se poser la question. Je regardais un petit peu avant de venir, là, il y a 450 races de chiens différentes dans le monde.
Wow.
Et c'est sans doute l'espèce animale dans laquelle on a fait le plus de sélection génétique pour obtenir une telle diversité. Mmh. Et au départ, cette diversité de races correspondait à des besoins des humains spécifiques, que ce soit garder des troupeaux, que ce soit défendre, que ce soit certains types de chasse. Et c'est ce qui a conditionné les choix des races jusqu'à présent. Et à l'heure actuelle, les personnes choisissent leur animal pas forcément sur quel est mon besoin en tant qu'humain, pourquoi je prends un chien. Est-ce que c'est vraiment juste pour me faire plaisir? Est-ce qu'on est dans un écosystème où ça a du sens? Et maintenant que les personnes vivent beaucoup en ville ou travaillent souvent à l'extérieur, c'est quoi le choix d'un chien dans la vie d'une personne?
Ouais, complètement. Il ne faut pas que ce soit un plaisir égoïste. Hélas, ça l'est... Souvent, en tout cas, ça l'est encore, non ?
En tout cas, plaisir égoïste, c'est bien de le formuler comme ça. Souvent, les personnes disent « j'aime mon chien, je l'adore, c'est mon bébé », etc. Sans se poser justement cette question de quoi est-ce qu'il a besoin en tant que chien. Comme si forcément, la personne pense que l'amour suffit. Et que ce qu'il va donner comme attention au quotidien, les gadgets qu'il va acheter, la nourriture qu'il va acheter, c'est ça dont le chien a besoin, sans faire la bascule de dire un chien c'est quoi ? Ça descend du loup à la base. Quels sont ses besoins en fonction de la race ? Et est-ce que moi, dans mon mode de vie, je vais pouvoir lui apporter des choses qui correspondent à ces besoins-là ?
Justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de races de chiens qui ont des besoins spécifiques ? Et qui ne sont pas toujours respectés, puisque tu l'as un peu introduit là maintenant.
Alors, par exemple, le Jack Russell, c'est un petit chien de terrier.
Oui.
J'ai encore rencontré une dame il n'y a pas longtemps, dans mon activité de phytothérapie, qui habite dans un appartement en ville, complètement en ville. Le Jack Russell, c'est un chien très vif, c'est un chien de chasse de terrier. Ça a besoin d'énormément se dépenser.
Tout à fait.
Alors, effectivement, les personnes se disent, c'est petit, c'est pas encombrant. Ça va être choupignon à la maison. Oui, c'est choupignon à la maison, mais il y a des problèmes de destruction, de comportement, de léchage quelquefois, qui sont juste liés au manque d'activité.
Bien sûr.
Et je comprends que quelqu'un en appartement, qui prend un peu d'âge, soit content d'avoir un petit chien. Ils se disent avec une petite balade le matin, une petite balade à midi et le soir, ça va. Ça ne suffit pas forcément.
Ouais. Ce qui résume à dire peut-être qu'effectivement, l'éducation... Effectivement, éduquer un animal, c'est une chose, mais aussi éduquer l'être humain quant à ses choix, quant à la responsabilité qui lui incombe lorsqu'il choisit de prendre un animal.
Exactement. Et ce qui serait bien, c'est que les personnes soient autonomes dans leur demande de se former.
Ouais.
Il y a tout ce qu'il faut comme information. J'ai une fille qui a décidé d'avoir un chien à un moment de sa vie. Elle s'est posé la question pendant... Elle est allée sur des sites, elle a regardé. Justement, par rapport à son mode de vie, où elle savait que dans un premier temps, elle vivrait en appartement avec des études à l'extérieur, bah, quel type de chien est suffisamment calme pour attendre son humain toute la journée, va se contenter de quelques promenades et voilà.
Parce que ça, ça demande existe. Réflexion. Ça existe des chiens qui sont en capacité d'attendre l'humain toute une journée, parce que moi, tu vois, pour moi, un chien, il a besoin de nous, quoi, et de, bah, de sortir, de vivre, pas juste d'attendre sur le canapé, quoi.
Alors, en tout cas, si, ça s'adapte très bien, et je rebondis sur l'émission qu'on a eue la fois précédente, c'est au moins la même chose pour un chat. Et j'ai envie de dire que le chien, il a la chance de pouvoir sortir au moins plusieurs fois par jour, quelques fois de partir en vacances. Mais j'ai des exemples autour de moi de quelqu'un qui a un American Staff, par exemple. Il fait une heure de promenade le matin. C'est pas juste je descends l'escalier, une heure de promenade le matin, une heure de promenade le soir. Et le chien, dans la journée, est très tranquille, il attend. Si vous regardez comment vit un chien au quotidien, il dort aussi quand même beaucoup. Après, ça dépend de son âge, ça dépend effectivement de la race, mais ça peut être très calme et s'habituer à attendre son propriétaire. Encore une fois, ça va dépendre du tempérament du chien. Un Eurasier, par exemple, ça va très bien. Ma fille, elle a un Eurasier. C'est un chien très calme. Je la vois régulièrement. La chienne, elle dort toute la journée. Il n'y a pas de problème. Un Border Collie ou un berger australien, c'est plus compliqué.
Ce sont des chiens plus fougueux, plus...
C'est des chiens de berger qui ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler. Le chien dont je vous parle, qui passe la journée tranquille à la maison, c'est un American Staff. Donc, c'est des chiens qui posent des problèmes parce que c'est catégorie 2, c'est-à-dire des chiens qui sont potentiellement méchants ou agressifs. N'empêche que c'est un chien très calme.
Ouais, c'est incroyable, hein, les croyances qu'on peut avoir.
Exactement. Hein,
et puis, ce qui est véhiculé aussi par rapport à des incidents ou des accidents qui peuvent arriver lorsqu'il y a des agressions de certains chiens.
Mais on en a eu pas mal, c'était avec les pitbulls, là, à une certaine époque où ça n'arrêtait pas.
Oui.
Moi, je sais que bon, si je croise un pitbull, je change de trottoir, quoi.
Oui,
mais enfin, en théorie, j'ai peur des chiens, hein, donc.
En même théorie ou en réalité, Valérie, du coup.
Bah, ça dépend quel chien se trouve face à moi, tu
bien
vois.
Bien sûr.
Et je sais que ça peut être. On dit souvent les gros chiens, alors que des fois, les gros chiens, ils sont assez pataux, en fait. Et les plus petits sont parfois les plus hargneux. Et dans ma vie d'avant, de jeunesse, on va dire. Mon voisin avait un tout petit chien noir, là, je ne sais même plus comment ça s'appelle.
Un petit équelle ?
Non.
Un petit caniche ?
Même pas, non, parce que ça, je ne me fais pas peur. Mais un autre, là, je ne sais plus comment
ça
s'appelle.
Un Yorkshire.
Non plus. Mais elle était très... elle montait la garde, tu ne pouvais même pas rentrer dans la rue, en fait. J'habitais une rue en cul-de-sac, et elle se posait... en bas de la rue, et tu n'avais pas intérêt à monter parce qu'elle te niaquait les mollets. Mais bien sûr, quand tu entends le maître, sa chienne ne mordait pas.
Mais, oui.
Mais il a quand même été 21 fois en procès.
Mais oui, parce que forcément, ça le responsabilisait à lui. Et...
voilà, le évidemment. Pauvre facteur, par exemple, ne descendait même plus de sa bicyclette.
Mais oui.
Voilà. Donc, et pourtant, c'est un tout petit chien, alors qu'il y a eu d'autres chiens... comment ça s'appelle ? Des bouviers bernois, je crois, c'est comme ça qu'on dit ?
Un bouvier bernois, c'est une race de chien qui existe, oui, qui est une chienne très gentille. Attention aux généralisations. Effectivement, il y a des petits chiens qui peuvent être agressifs et des gros qui ne le sont pas du tout.
Voilà. Et l'inverse est vrai aussi.
Et l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est vraiment plutôt du cas par cas, et au niveau des races, et au niveau des chiens à l'intérieur des races. Globalement, on sait que certains chiens sont gentils, est facile, et il peut y avoir des exceptions. Et à l'inverse, des American Staff, par exemple, qui sont des chiens potentiellement, ou le Rottweiler, potentiellement agressifs, s'ils sont élevés en douceur, sont des chiens hyper gentils. Donc, c'est attention toujours aux généralisations.
Bien sûr.
Mais c'est bien qu'il y ait des grandes lignes qui permettent aux personnes, quand elles fassent le choix d'un chien, de se référer quand même aux caractères généraux de la race, plutôt que juste, oh, il a des poils longs, il est joli... ça me fait plaisir d'avoir tel chien à côté de moi quand je suis...
Non, mais après, c'est vrai que, par exemple, si on prend, je sais pas moi, un Doberman...
C'est impressionnant comme chien.
Ouais, puis ça a l'air bien musclé quand même. Hein. Donc, tu te dis, s'il te fonce dessus, est-ce que je vais pouvoir avoir... tu vois, il ne faut pas que je sois déséquilibré, quoi. Parce que sinon, Ça, ou alors les huskies aussi qui ont de la force.
Ah, c'est magnifique, un husky, mais ça doit vivre en plein air et se dépenser énormément, sauf erreur, un husky.
Alors, c'est surtout que le husky, ça vient du pays du froid.
Et oui.
Ils ont une fourrure très dense et voilà. Donc, à Montpellier ou dans le sud de la France, un husky, c'est pas très sympa par rapport à son mode de vie. Après, ce sont des chiens indépendants qui peuvent dormir beaucoup, mais qui ont du caractère et qui ont, quand ils sont en liberté, une envie d'explorer le territoire qui peut être dérangeante. Donc, c'est des chiens de réputation fugueur.
Ah oui.
Parce qu'ils ont un besoin d'autonomie et d'aller explorer.
Bah, faut dire que dans le Grand Nord, ils ont de l'espace, quoi.
Complètement.
Certes.
Donc forcément, pour eux, l'exploration...
Alors justement, tout à l'heure, tu l'as abordé un petit peu. Est-ce qu'on peut revenir sur les besoins de base d'un chien, que ce soit en ville ou à la campagne, puisqu'il doit y avoir forcément des différences, je l'imagine en tout cas.
Absolument. Alors, dans les lieux communs, par exemple, il y a, j'habite à la campagne, j'ai un jardin, donc je peux laisser mon chien dans le jardin toute la journée et toute la semaine. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il peut faire ses besoins dans le jardin et tout va aller bien. Ben non, un chien, c'est un animal social. C'est un animal normalement de meute. Hein. Pensez toujours que le chien descend du loup. Et les loups sont des animaux qui ont une vie sociale très développée. Et donc, un chien qui est tout seul dans son jardin, et même s'il y a son maître dans le jardin, ça ne va pas répondre à son besoin d'explorer, d'être curieux, d'aller rencontrer des congénères, d'aller se promener dans la forêt. Donc, autant les chats de gouttière, j'ai deux chats de gouttière, et ça fait un petit pied avec l'émission précédente, ont la liberté d'aller explorer autour d'eux comme ils veulent, mais les chiens dépendent de leur humain pour pouvoir aller explorer. Donc, pensez que le chien va être heureux ou que ça lui suffit d'avoir un jardin et de ne jamais sortir de son jardin, c'est une erreur.
C'est faux. C'est ce que je dis à ma voisine, d'ailleurs, qui a un petit dog français, c'est ça, hein ?
Un bulldog français.
Un bulldog français, pardon. Et elle me dit, bon, là, j'ai pas eu le temps, j'étais pas très bien, j'ai pas sorti mon chien. J'ai dit, elle a un jardin. Ben, j'ai dit non, il faut que effectivement lui et toi, vous fassiez le tour du pâté de maison, même que le tour du pâté de maison, c'est important, et qu'il rencontre, qu'il aille sniffer à droite à gauche, quoi.
Exactement, ouais, exactement.
C'est important.
Même si, pour le coup, cette race de chiens bulldog français,
oui,
c'est des chiens qui ont été tellement, comment dire, trafiqués au niveau génétique,
oui,
qu'ils ont le nez tout à plat plat.
Oui.
Ils respirent très mal,
oui,
ils s'essoufflent très rapidement.
Tout à fait.
Donc c'est un des chiens qui a le moins besoin d'exercice en extérieur.
Ah, d'accord.
Mais au niveau du comportement, bien sûr que d'aller relever ses mails, ses SMS dans les alentours de chez lui, avec tous les chiens qui ont fait pipi avant,
bien
c'est
sûr
hyper important.
Ah ouais, tu vois.
Hyper important.
Alors justement, tu as parlé de la campagne, la ville, je ne sais pas.
Alors
si
la ville, ben justement, dans les besoins du chien, ben y a le nombre de minutes, on va dire, si on ne veut pas dire d'heures,
ouais,
de sortie journalière pour que le chien s'y retrouve. Pensez que c'est l'animal, c'est le seul animal qui a accepté de se conditionner pour faire ses besoins sur demande. Un chien, il attend qu'on le sorte pour aller faire pipi,
ouais,
dehors et faire ses besoins, ouais, dehors. C'est la seule espèce à qui on a pu imposer ça. Les chats, on leur met une litière. Les autres animaux, on leur met une litière. Le chien, patiemment, il sait que ça doit être deux fois ou trois fois ou quatre fois par jour. Donc même en appartement, il y a besoin de les sortir et longtemps.
Oui.
Ils ont besoin de se dépenser, d'aller voilà. Donc ça, c'est dans les besoins spécifiques. Là, c'est tout ce qui me vient là tout,
ouais,
de suite.
Ouais.
La nourriture.
Alors, moi, j'ai une autre question.
Ah,
alors,
vas-y, Valérie.
Elle est subsidiaire totalement. Mais est-ce qu'un chien à la campagne et un chien à la ville, eh bien, on lui donne la même nourriture ?
Alors, au niveau de la nourriture. Ce qu'on va adapter, c'est la quantité de nourriture en fonction de l'exercice. Un chien qui va se dépenser, qui va faire de l'agility ou qui va aller faire une rando avec son maître de 4 km ou 10 km le dimanche, évidemment qu'on va lui donner une alimentation plus riche que le chien qui est en ville et qui va sortir,
ouais,
avec sa mamie
sédentaire, malgré tout.
Deux fois par jour. Donc bien sûr, ça va changer à ce niveau-là l'alimentation, la richesse de l'alimentation, on va dire. Et maintenant, il faut bien se dire que 90% des personnes, c'est en train d'évoluer un petit peu, donnent des croquettes industrielles, et que ces croquettes industrielles sont effectivement dosées. Il suffit de suivre le mode d'emploi pour savoir quelle quantité par rapport à quel âge, etc. quoi.
Oui, mais au final, est-ce que tu nous conseilles de donner des croquettes ou est-ce que tu nous conseilles de donner de la nourriture genre nos restes, quoi ?
Alors, les deux, mon capitaine.
Ah, il faut faire un mix, ok.
Disons que je pense que les croquettes du 1er janvier au 31 décembre, toujours la même alimentation, c'est non adapté aux besoins d'un chien qui, comme nous, va, s'il était sauvage, attraper des proies différentes au fur et à mesure de l'année et au fur et à mesure des saisons. Ça, c'est une première chose. D'autre part, si sur un plan nutritif, théorique, les croquettes sont complètement bien faites pour qu'il y ait la quantité de minéraux, de ci, de ça. Il n'empêche que toutes les matières premières sont déshydratées, puis amalgamées, et que du coup, ça n'apporte pas la même qualité nutritive qu'une alimentation fraîche. Donc, même si les chiens boivent mieux que les chats,
oui,
et compensent mieux la déshydratation...
Oui, c'est important pour les reins, notamment.
C'est important pour les reins, et c'est important pour l'hydratation générale du corps,
oui.
On a besoin de beaucoup d'eau. Et comme ils n'ont plus l'eau dans les aliments, puisque les aliments sont déshydratés, ils sont obligés d'aller chercher l'eau à l'extérieur. Et un haricot vert déshydraté ne va pas avoir la même qualité nutritive qu'un haricot vert qui a son eau constitutive de haricot vert.
Complètement, oui.
C'est pour ça que je conseille en particulier l'aloe vera en complément alimentaire, parce que c'est une autre plante qui convient à tous les animaux qui mangent des croquettes et déshydratées.
D'accord, et l'aloe vera, donc du coup, elle est mise comment dans la nourriture de l'animal, justement ?
Elle est mise tout simplement en le mucilage d'aloe vera, juste stabilisé, sans conservateur chimique, conserve le goût de la plante au naturel.
D'accord.
Et ce que nous, on trouve amer comme goût, pour les chiens, alors les chiens un petit peu moins, et les chevaux, c'est juste un goût normal de plante. Donc ça ne pose pas problème à l'absorption.
Ah d'accord, mais c'est très intéressant tout ceci.
Ben, on en parle juste après, mais vas-y, continue.
Oui, justement, donc ma question c'est, à ton avis, selon toi, comment expliquer l'augmentation de consultations par rapport à des comportementalistes destinés à nos animaux et quel est leur rôle en fait, quoi ?
Alors, les comportementalistes animaux, c'est une profession qui est apparue il y a peut-être maximum une dizaine d'années. Enfin, quand moi, je faisais mes études il y a 20 ans, ça n'existait quasiment pas. Et c'est venu répondre au désarroi de propriétaires qui, effectivement, choisissent un chien, qui n'ont jamais eu d'animaux de leur vie, qui ont une vague notion de qu'est-ce que c'est que, comment on apprend à un chien à s'asseoir, à ne pas sauter, à ne pas aboyer, à rester, à revenir au pied en balade, et qui se rendent compte qu'en fait, ils ne savent pas faire, qu'ils ne savent pas établir le rapport d'autorité simple, naturel et de complicité avec leur animal, et qui se trouvent dépassés. Et une fois qu'ils se trouvent dépassés, que le chien vient sur le canapé, refuse de descendre, ou qu'il attaque tout ce qui bouge dans la rue, ou qu'il n'arrête pas de sauter sur les personnes qui rentrent dans la maison ou dans le domicile, y a un moment donné, ils ont besoin, en tant qu'humains, d'aller dire que leur chien a besoin d'être rééduqué ou éduqué. Et maintenant, il y a plein d'écoles pour apprendre aux personnes à se comporter avec leur chien, à éduquer leur chien, parce que c'est plus devenu quelque chose de spontané.
Mais oui, c'est important l'éducation. Et justement, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle un éducateur canin et justement un vétérinaire comportementaliste ?
Alors, il y a une grosse différence. Alors, tous les comportementalistes ne sont pas vétérinaires.
D'accord.
Merci d'avoir employé ce terme. Et, c'est exactement la même chose que l'éducation et les psychologues thérapeutiques.
D'accord.
Les écoles d'éducation pour chiens vont apprendre à éduquer son chien. Donc, en fait, c'est des personnes qui ont l'habitude du comportement des animaux et qui savent apprendre à un chien à s'asseoir, à se coucher. Et donc, l'humain va apprendre à son chien en même temps qu'il apprend, lui, comment se comporter avec son chien. Le gros avantage de ces écoles d'éducation pour chiens, c'est que ça met en contact beaucoup de chiens ensemble. Et donc, ça les sociabilise, puisque c'est comme nous, humains.
Complètement.
Le loup, il est sociabilisé d'entrée de jeu quand il naît, parce qu'il a sa famille loup autour de lui. Et les chiens, ils sont avec un humain très tôt. Et donc, on est obligé de leur réapprendre comment avoir une posture de soumission, comment jouer avec un congénère, parce qu'ils ne savent plus. Spontanément, ils ne savent plus. Peut-être on peut faire un parallèle avec les humains à notre époque.
Mais non, je trouve ça très... Mais évidemment...
Ah, les humains, ils ne savent plus jouer non plus, hein, je te confie.
On va jouer à la baballe.
Mais non, au jeu de société. Oh.
Oh, bon, tu choisiras celui que tu veux, Valérie, puis on jouera après avec Dominique.
Ok, ça va.
Pas de souci. Bon, je pense que par rapport à ça, oui, tu voulais rajouter quelque chose, Dominique ?
Non, on en est la différence. Donc, oui, les éducateurs, les écoles d'éducation pour chiens, c'est pour apprendre à se comporter. Oui. Et le comportementaliste, il arrive quand il y a eu un problème de
c'est
comportement,
ça, il intervient à ce moment-là.
Que le propriétaire ne sait pas s'il va pouvoir garder son chien. Et malheureusement, les SPA regorgent de chiens adultes. Qui sont arrivés là, pas seulement parce qu'ils sont abandonnés, parce que la personne est décédée ou qu'il y a un problème familial, mais aussi trop souvent parce que la personne n'a pas su gérer le comportement de son chien et qu'ils deviennent difficiles à rééduquer et qu'il faut trouver des familles où les personnes sont stables, ont une autorité naturelle et une douceur qui va faire que le chien va pouvoir se rééduquer et se réadapter.
Ce qui est compliqué, je trouve, c'est que... l'être humain, je ne sais pas si c'est une impression, j'ai envie de dire c'est une réalité, a besoin de satisfaire un besoin individuel, personnel. Donc on parlait, tout à l'heure, je parlais de besoin égoïste, en tout cas de plaisir égoïste. Et c'est vrai, je trouve ça quand même dramatique, quoi. Et je pense qu'il y aurait besoin de mise en place d'informations, de prévention à destination de futurs propriétaires d'animaux, quoi. Je ne sais pas, c'est peut-être très utopique ce que je dis, mais bon.
Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que le constat, c'est que les gens ne sont pas suffisamment autonomes pour chercher l'info, et que quand ils vont la chercher, c'est un peu trop tard. Donc, soit ils vont dans une SPA, et là, les personnes qui donnent les animaux, qui confient les animaux, oui, sont très sérieuses et très vigilantes sur les questionnaires. Soit y a un travail qui devrait être fait plus spécifiquement et plus profondément par les éleveurs de races de chiens qui, quelquefois, donnent leurs chiens parce qu'ils ont besoin de les vendre sans s'assurer vraiment de est-ce que la famille d'accueil est adaptée par rapport aux chiens qu'ils proposent. Et donc ça, c'est aussi une responsabilité des éleveurs canins qui n'est pas toujours respectée, surtout dans les éleveurs multirraces ou qui... c'est aussi une profession qui est... Je ne sais pas si elle est en danger maintenant, mais en tout cas, qui est dure. Parce qu'une fois que les animaux sont nés, il faut trouver des familles. Et quand il reste des chiots sur les bras, on est un peu moins difficile.
C'est un manque à gagner, j'imagine, pour eux.
Et puis, qu'est-ce qu'on en fait ?
Ouais, complètement.
Donc, un ensemble de problématiques.
Mais alors, tu parlais justement, tu vois, des chiens qu'on place à la SPA parce que le maître, l'éducation, il ne l'a pas fait et que ça devient de plus en plus difficile. On peut rééduquer un chien. Alors, rééduquer, moi, j'aime pas ce mot-là, surtout pour les animaux, mais on va dire ça comme ça. C'est-à-dire lui redonner les bonnes bases, même s'il est déjà il est âgé de 10 ans, par exemple.
Ça va complètement dépendre de la problématique du chien, de sa capacité de récupération et de refaire confiance à l'humain. Donc, il y a autant de cas de figure qu'il y a d'animaux. Et je ne saurais pas donner un pourcentage ou un chiffre de
mais en tout cas, c'est possible.
Tout est possible. Après, des chiens qui sont devenus... Alors nous, on a cette problématique. Donc quand je travaillais en tant que vétérinaire dans notre service d'urgence à domicile, on a eu des demandes d'euthanasie de chiens méchants qui avaient mordu une fois, deux fois, le gamin ou la personne, et où la demande est claire de faire euthanasier l'animal. Et en tant que vétérinaire, c'est des sujets... Donc moi, j'étais particulièrement réticente dans l'équipe de véto que j'ai créée. Et en même temps, il y a des moments, des chiens qui sont devenus trop agressifs, à qui les confier, à qui les donner. Et malheureusement, il y a des chiens qui sont euthanasiés parce qu'ils ont été mal éduqués, qui sont devenus agressifs et qu'on n'a pas d'autre solution.
D'accord.
Ouais, je trouve ça terrible. Allez, un petit peu de gaieté, de positif dans notre deuxième pause musicale que tu nous proposes. Alors, je vais faire des efforts pour prononcer à peu près. C'est Cookie Jar, c'est ça ?
Oui, c'est ça, très bien.
On and On ?
Oui.
Avec mon accent du sud-ouest, donc c'est une petite touche personnelle comme ça. Donc,
Tout va bien, les gens qui connaissent reconnaîtront
et
ou pas.
Je vais voir si je connais justement.
Ça marche.
Merci.
I would turn on the TV, but it's so embarrassing to see all the other people. I don't know what they mean, and it was
was magic at first, when they spoke without sound. But now this world is gonna hurt, you better turn that thing down. Turn it around. Well, it wasn't me, says the boy with the gun. Sure, I pulled the trigger, but it needed to be done, because life's been killing me ever since it begun. You can't blame me, cause I'm too young. You can't blame me, sure, the killer was my son, but I didn't teach him to pull the trigger of the gun. It's the killing on his TV screen. You can't blame me, it's those images he sees. Says the media man, well, I wasn't the one who came up with the plan. And I just point my camera, what the people wanna see. Man, it's a two-way mirror and you can't blame me. You can't blame me, says the singer of the song, or the maker of the movie which he bases life on. It's only entertainment, and as anyone can see, smoke machines and make a man, you can't fool me. It was you, it was me, it was every man. We've all got the blood on our hands. We only receive what we demand. And if we want hell, then hell's what we'll have. I would turn on the TV, but it's so embarrassing to see all the other people don't even know what they mean. And it was magic at first, but let everyone down. And now this world is gonna hurt.
Qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, Dominique Maléran nous parle de quel chien pour quel mode de vie. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle est disponible en podcast sur le site de la radio, audioradio.fr, dès la fin de l'émission. Bon, avec toutes les petites précisions que Dominique, tu nous as données avant la pause, justement, moi j'aimerais savoir quelles sont les idées reçues les plus courantes, mais qui sont fausses.
Par exemple, que quand un chien mange de l'herbe, c'est qu'il se purge et qu'il élimine les vers. Ça n'a strictement rien à voir. En fait, les chiens mangent de l'herbe parce qu'à un moment, il leur manque quelque chose dans leur alimentation et que l'herbe, c'est quelque chose de naturel. Voilà. Et en fait, souvent, l'herbe à laquelle ils accèdent est trop coupante. Ça irrite l'estomac et ça les fait vomir.
Ah,
mais ça n'a rien à voir avec une purge.
Ah oui.
Parasitaire.
D'accord. Ah ouais, mais c'est vraiment une croyance en fait.
Ah ben oui.
Y compris pour le chat, j'imagine.
Oui, pareil pour le chat. Les chats mangent moins souvent d'herbe que les chiens, mais on met quand même de l'herbe à chat dans les appartements. Voilà. En fait, ça répond à un besoin, je pense, de nourriture naturelle, alors qu'en fait, mais ça n'a rien à voir avec les vers ou avec se purger pour alléger son système digestif.
Mais merci, enfin aujourd'hui,
oui,
c'est la fin de notre croyance. Non mais sérieusement.
Ah oui, parce que moi j'y croyais aussi, hein, mais alors, dur comme fer. Hein.
Merci.
Avec plaisir.
Et alors, est-ce qu'il y en a d'autres, des idées reçues qui sont fausses?
Alors vraiment des idées reçues, je ne sais pas trop, mais en tout cas il y a un comportement, surtout des petits chiens qui ne sortent pas suffisamment, qui font le signe du traîneau. Ils se frottent les fesses par terre.
Ah, oui.
Et souvent les gens disent « Ah ben il a des vers ».
Oui.
Alors non, il n'a pas des vers. En fait, tous les félins et les canidés aussi ont des glandes de marquage de territoire qui sont de part et d'autre de l'anus. Et quand les animaux ne peuvent pas les vider, donc quelquefois on voit un chien qui se met en position comme s'il va faire ses besoins, alors qu'en fait, non, il ne fait rien. Mais en fait, il vide ses glandes anales. On appelle ça les glandes anales. Et les animaux qui n'arrivent plus à les vider parce qu'ils ne sortent pas assez souvent et que justement, ils n'ont pas l'occasion d'aller marquer leur territoire, bah, ces glandes s'engorgent, ça peut aller jusqu'à faire des abcès, et donc les chiens se frottent les fesses par terre. Donc un chien qui se frotte les fesses par terre, faut aller chez le vétérinaire et pas dire c'est normal, ça le démange ou il a des vers. C'est vraiment une pathologie.
Alors, je suis d'accord, mais justement, on parle de croyances. D'où vient cette croyance? Est-ce que toi, tu as l'origine de ces croyances-là, je dirais, inadaptées, en fait?
Non, je n'ai pas l'origine et je n'ai pas cherché, je dois dire. Je n'ai pas cherché l'origine.
D'accord.
Pour l'alimentation et se purger, je n'ai pas cherché l'origine non plus. Alors, une croyance, donc j'ai fait un diplôme universitaire de phytothérapie. Il y a une croyance aussi que l'ail est un bon vermifuge.
Ah oui, y compris pour l'humain.
Y compris
pour l'humain. J'ai toujours entendu.
Donc oui, j'ai envie de dire, ceci dit pour le chien, la quantité d'ail qu'il faudrait donner pour avoir un effet qui fasse vraiment, qui soit vraiment efficace sur faire fuir les vers ou éventuellement tuer des vers, est complètement, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'on va donner une demi-gousse d'ail ou des comprimés à l'ail que ça va suffire à vermifuger un chien. Voilà. Ce que j'ai envie de dire sur les croyances, la plus importante, c'est celle concernant le manger de l'herbe, ça purge. Ça, franchement, c'est voilà.
Donc, quand les personnes viennent avec leur animal et pensent que c'est ça, que, justement, tu dois... Je ne dis pas que tu as les cheveux qui se dressent sur la tête, mais est-ce que tu les reprends en les informant, justement
C'est en ça que j'ai eu envie de répondre à cette question-là, parce que dans les consultations vétérinaires, ça revenait tout le temps.
Et oui.
Et ça fait partie des causes de vomissement, alors que c'est simplement un déséquilibre alimentaire ou un besoin qui n'est pas entendu ou qui n'est pas pris en compte, justement, dans l'alimentation, pour le coup.
D'accord. Merci pour ces précisions. De quelle nature est l'attachement des humains, justement, à leur chien à l'heure actuelle? Est-ce que cela a évolué au fil du temps? Est-ce que tu trouves que, finalement, est-ce que l'humain, il est toujours aussi attaché à son chien qu'il l'était auparavant?
Alors, effectivement, je pense que le changement de qualité ou de nature du lien entre l'humain et le chien a beaucoup évolué, je sais pas, peut-être depuis une vingtaine d'années. Justement parce que nos sociétés ont évolué et qu'il y a beaucoup de personnes seules et que le chien est devenu un support affectif dans beaucoup de cas, alors que si, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 450 races de chiens, c'est parce qu'au démarrage, le chien était utile dans la vie dans la vie de l'homme,
oui.
Que ce soit pour la chasse, pour garder les troupeaux, pour... je pense essentiellement à la chasse, garder les troupeaux, avec des races de chiens différentes en fonction du type de chasse. Il y a des chiens de chasse à cours, les chiens de terrier, les chiens courants, voilà, il y a beaucoup de races de chiens voilà, de ce type-là. Après, les chiens de garde, il y en a énormément en fonction des régions, que ça soit le gros chien, le patou des Pyrénées, le Rhodesian Ridgeback en Afrique. Enfin, il y a vraiment des races de chiens très différentes là-dessus. Et maintenant, les personnes qui prennent un chien, c'est une compagnie.
Oui.
Et ils disent, c'est mon enfant, maman est là. Ça, c'est le truc qui me choque le plus. Comme si le chien restait un bébé.
Oui, ça puis prend un souvent enfant, un quoi. C'est l'enfant de la famille, quoi.
C'est ça, c'est un des enfants de la famille, même quand le chien devient adulte. Et j'ai souvent repris des personnes. Alors, j'ai écrit un bouquin sur mon parcours vétérinaire et j'ai consacré un chapitre à ça. Avec de grâce, considérez que votre chien devient adulte à un moment donné. C'est pas un enfant permanent dans la famille. À un moment, c'est un chien adulte. Voilà, donc il y a des attachements énormes et en même temps, ça répond à un besoin. Effectivement, des personnes en ville, âgées, à la retraite, sortir le chien. Il y a la solitude, il y a sortir son chien, ça devient une façon d'aller se promener, une obligation de marcher,
oui.
Qui a complètement du sens. Donc ça, c'est hyper important. Après, ça peut être intéressant. Enfin, il y a aussi des supports affectifs pour des enfants qui peuvent être en difficulté, avoir une hyper-excitabilité.
Et thérapeutique, non, quelque part.
Exactement.
Ouais, un chien qui devient une médiation, en fait.
Exactement.
Ce qu'on appelle la médiation animale.
Exactement. Donc ça, c'est un rôle super important. Mais franchement, ce qui a beaucoup changé, c'est cet hyper-attachement avec, justement, du coup, une méconnaissance du besoin de chien dans son rapport à des congénères chiens. en particulier, et à ce besoin d'espace. Il y a presque plus de chiens à l'heure actuelle qui arrivent à courir en liberté. Dans tous les endroits, c'est tenez votre chien en laisse, que ce soit dans les forêts, sur les plages. Donc il faut vraiment trouver des endroits où on peut lâcher son chien, qu'il explore, mais qu'on soit capable de lui dire maintenant tu reviens, parce que c'est l'heure de rentrer à la maison.
Donc il y a eu l'éducation qui était faite en amont, quoi.
Exactement.
Quoi qu'il en
exactement.
Soit.
Ah, justement, quelques mots. Est-ce que tu as des conseils de nutrition, justement, et de soins préventifs ?
Alors, je voudrais d'abord parler de soins préventifs. Désolée pour les vétérinaires éventuels qui m'écoutent, mais je ne vais pas défendre la profession actuelle et son évolution actuelle. Les laboratoires nous ont beaucoup conditionnés à augmenter la quantité de soins préventifs, en particulier les antiparasitaires. Que ça soit des parasites internes ou des parasites externes. Et de mon point de vue, je vais parler que de mon point de vue, il y a un abus total de prescription d'antiparasitaires internes et externes, avec des produits qui donnent des effets secondaires. Dans notre service d'urgence à domicile, on a eu malheureusement, enfin, on a eu souvent, et les dernières années, avec maintenant les antiparasitaires qui sont en comprimé, antiparasitaires externes qui sont en comprimé, des effets secondaires avec des vomissements ou des symptômes neurologiques qui ont donné lieu à des appels de visite de notre service d'urgence vétérinaire.
D'accord.
Donc bien évidemment que par rapport au nombre de prescriptions à la journée de tous les vétérinaires de Bordeaux, ça reste des cas minoritaires. On n'était pas appelés tous les jours pour des intolérances à ces vermifuges qui sont prescrits toute la journée par tous les vétérinaires. Il n'empêche qu'il y avait des cas quand même sévères d'intolérance et qu'on ne se pose pas la question, un chien en ville qui sort deux fois par jour, sa probabilité d'attraper du ténia ou des ascaris, elle est quand même très faible.
Mais c'est ce que je pense aussi, oui.
Voilà.
Bien sûr, c'est différent. Le milieu de vie étant différent, les expositions le sont aussi.
C'est ça. Et on ne se pose absolument pas cette question. C'est le vermifuge tous les trois mois, le produit antipuce tous les mois. Donc, à la saison, oui. Quand on voit que le chien a des tiques, oui, bien sûr. Voilà. Mais je trouve qu'il y a un excès de prescription. Donc, essayez d'avoir du bon sens. Les vaccins, c'est très utile. Pas forcément à tous les âges de la vie, pas forcément dans tous les modes de vie. Et en tant que propriétaire d'un animal domestique, vous avez le droit d'avoir un avis, vous avez le droit de donner votre avis au vétérinaire, et vous avez le droit de dire « je suis désolée, mon chien ne sort pas ou il est que dans le jardin, j'ai pas envie de lui donner un vermifuge tous les trois mois ». Voilà, c'est votre droit. C'est pas le vétérinaire, surtout maintenant dans les chaînes vétérinaires où il y a des objectifs de chiffre d'affaires.
Mais évidemment.
Notre profession s'est beaucoup transformée. Il y a une espèce, je vous donne le vermifuge pour les trois mois, je vous fais un abonnement annuel, vous venez le chercher tous les mois, etc.
C'est ça, oui.
Et le propriétaire a l'impression qu'il n'a pas le choix.
Oui.
Que c'est une mesure
obligatoire.
Non, c'est captif, sinon ça serait éventuellement de la maltraitance vis-à-vis de son animal. Il y a peut-être une espèce de conditionnement ou de culpabilité, je ne sais pas.
Exactement. Et puis si le vétérinaire le dit, c'est qu'il a raison. Oui. Et je ne me pose même plus la question de savoir est-ce que c'est OK pour moi.
Oui.
Et donc, je vous invite à exercer votre discernement. Documentez-vous. On trouve tout maintenant avec Internet. Je ne parlerai pas d'autres techniques. Bref, on trouve tout sur Internet. Il y a des bouquins qui sont très bien faits. Il y a des librairies partout. Renseignez-vous et exercez votre avis personnel sur le bien fondé. Posez des questions aussi à votre véto. Pourquoi il vous conseille ce produit-là plutôt que tel autre ? Pourquoi à ce rythme-là ? Est-ce qu'il y a vraiment une raison ? Voilà. Donc ça, c'est pour les soins préventifs. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre par rapport à ça ? Que les chiens ne se lavent pas comme les chats. Donc oui, l'hygiène du chien, c'est important. Vérifier qu'il n'y a pas d'odeur au niveau des oreilles. Vérifier que la peau est en bon état. Voilà. Il n'y a pas besoin de laver son chien toutes les semaines ou tous les mois. Ça enlève une couche de sébum protectrice de la peau. Mais il y a besoin, pareil, d'exercer son bon sens et de savoir est-ce que mon chien a besoin d'être lavé ou pas. Et pareil, de respecter, il sent un peu mauvais, je vais le remettre sur la douche avec du savon détergent. Non, on se pose la question. quel type de shampoing on peut utiliser sur le chien, etc.
Et là, le vétérinaire a forcément, je dirais, un impact, un avis à donner qui pourrait être judicieux par rapport au chien donc, du propriétaire qui vient en consultation.
Absolument. Et il y a plein de vétérinaires qui le font tout à fait bien. Mmh. C'est pareil, il y a autant de... Même si on a une formation commune, chaque vétérinaire, heureusement encore à l'heure actuelle, peut exercer ses propres valeurs et sa façon de prendre du temps pour donner des conseils préventifs ou pas. Ça dépend vraiment des endroits dans lesquels... comment la personne va choisir son véto, en fait. Est-ce qu'il a envie d'un véto un peu médecin de famille qui va prendre le temps de donner tout ce type de conseils? Il y a maintenant des cabinets vétérinaires spécialisés en médecine alternative ou en phytothérapie, il y en a sur Bordeaux. Donc il y a vraiment moyen de s'occuper de la prévention de façon très différente. Et il y a plein de moyens proposés à l'heure actuelle.
D'accord.
Il y avait prévention, il y avait quoi? Il y avait autre chose dedans?
Ah ouais, les conseils de nutrition, mais on en a déjà peut-être un petit peu parlé.
On en a un petit peu parlé avec les croquettes. Et il y a maintenant on peut donner du BARF, c'est pareil, il y a des sites de nutrition qui sont très bien faits. Donc, exercez aussi votre discernement et vos choix. Attention aux croquettes bas de gamme. Attention aux pâtés bas de gamme, parce que ça peut causer des dérèglements.
Avec les additifs intégrés dedans, j'imagine.
Oui, et puis beaucoup de céréales ou beaucoup de sucre. Oui. Les chiens sont des carnivores, comme les chats. Et quand on voit que le premier ingrédient, ou qu'il n'y a que 30% de protéines pour une ration pour un chien, ça va dépendre de... Il ne faut pas qu'il y ait plus de 30% d'amidon ou de céréales à côté. Donc voilà, vérifier aussi un peu la teneur de ce qu'on donne à son animal.
Bien sûr.
Mais alors, comme l'heure tourne, n'est-ce pas ?
Vas-y, dis-nous, Valérie.
Eh bien, justement, pour finir, en cas d'urgence vétérinaire, en dehors des heures d'ouverture des cliniques vétérinaires, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, quand on est propriétaire d'un chien ?
Alors, le premier réflexe à avoir, même si c'est dimanche, même si c'est la nuit, c'est d'appeler votre vétérinaire traitant. Sur son répondeur, il y a une obligation légale de notre conseil de l'ordre vétérinaire de continuité des soins. Donc, votre vétérinaire renseigne sur son répondeur la solution en cas d'urgence quand il est fermé. Donc, il y a des vétérinaires qui ont choisi Veto Adom à domicile. Il y en a d'autres qui vont vous conseiller la clinique Akivet ou la clinique Assistavet, peu importe. Mais votre vétérinaire, sur le répondeur de votre vétérinaire, vous aurez l'information du service de garde quand il est fermé. Et bien sûr, sur Internet, sur votre téléphone, urgence vétérinaire, vous aurez aussi d'autres réponses. Mais simplement, votre vétérinaire vous informera sur son répondeur.
C'est une obligation. Très bien. Bon, moi, je touche du bois. Je ne sais pas toi, Juliette, mais moi, je n'ai jamais eu besoin d'urgence vétérinaire. Donc,
Je suis en train de visualiser le truc. Non, j'espère que non.
Voilà,
en effet.
C'est exactement ça. Et bien, on va faire notre troisième et dernière pause musicale. À ce coup-ci, c'est plus facile pour moi. C'est Ose de Yannick Noah.
Ah oui.
Presque rien, juste un pas. Et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies. Au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer. Donne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur. Avancer, fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer, tu dois tout changer.
presque rien, un regard, tu peux essayer, tu peux tout changer.
Qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, avant la pause musicale, Dominique Maléran nous a parlé de quel chien pour quel mode de vie. Si vous voulez réécouter l'émission, elle sera disponible en podcast directement sur le site de la radio, auderadio.fr, dès la fin de l'émission. Dominique, tu es prête pour conclure ce sujet d'aujourd'hui? Dominique, comment fait-on pour te joindre?
Ah, pour me joindre, mais oui. Merci beaucoup de me poser cette question.
C'est important.
Eh bien, écoutez, vous tapez Dominique-Maléran sur Internet, juste mon nom, et vous saurez directement sur mon site Internet, où il y a toutes les informations des activités que je propose encore aujourd'hui. Merci de m'avoir posé cette question.
Non, c'est normal. Par contre, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut te contacter? Et si tu veux bien nous le donner, ou en tout cas...
Avec plaisir.
Allez.
06 07 12 52 44.
Une deuxième fois pour nous faire plaisir.
06 07 12 52 44.
D'accord, merci beaucoup Dominique. Donc en fait, nous allons passer à nos actus. Je vois Valérie. Tu me vois Valérie?
Oui, ouais,
Valérie
me voit. Oui, je te vois. Tu sais que Dominique, des fois, elle peut aussi participer à des salons du bien-être pour justement tout ce qui est phytothérapie.
Ah ben voilà. Donc en fait, bien Dominique, tu es la bienvenue donc, le dimanche 17 mai en Dernos-les-Bains.
Oui,
c'est bien ça,
c'est
Valérie.
Ça. Oui.
Et il y aura ce fameux salon dont on parle donc depuis un petit moment maintenant, qui s'appelle le salon Essentia. Ouais, je pense avec l'accent, c'est pas mal quand même. Hein.
Ben ouais, ça le fait.
Ça le fait. Salon du bien-être à Senon, le dimanche 14 juin de 10h à 18h. Il est organisé par l'association Être au pluriel à ta santé. Alors, le don du sang.
Ah oui, le don du sang, c'est important.
Voilà, c'est important et c'est à l'hôpital, enfin au CHU, donc tous les jours, entre le lundi et le vendredi, sauf erreur. Je ne sais pas si c'est le samedi aussi.
Je ne crois pas. Je crois que c'est que du lundi au vendredi.
Donc, place Amélie, Rabat, Léon, nous y attendons toutes et tous. C'est important et nous y tenons chaque semaine. Voilà. Oui, Dominique.
J'ai juste entendu passer les informations sur les salons. Donc, oui. Je tiens un stand au salon d'Andernos le week-end qui vient.
Ah, ben voilà,
qui vient. 17 et 18 mai. Donc, vous pourrez me retrouver à Andernos-les-Bains, stand numéro 30, Dominique Maléran.
D'accord. De quelle heure à quelle heure, du coup?
Ah, toute la journée. Je tiens un stand. D'accord. Et le samedi et le dimanche, c'est de 10h à 18h.
De 10h à 18h. Ben super, avec plaisir donc pour t'y retrouver. Voilà, on va te remercier chaleureusement, Valérie et moi-même, de nous avoir parlé de quel chien et pour quel mode de vie. Et la semaine prochaine, nous aurons donc une autre invitée qui s'appelle Céline Trijasson.
Et pour revenir quand même, juste pour conclure vite fait, c'est bientôt les grandes vacances, mais on n'est pas obligé d'abandonner son chien sur le bord de l'autoroute. Hein.
Non.
Ni son animal d'ailleurs, que ce soit un chien ou un chat.
Ni son humain également, ça c'est une aparté, mais bon.
Voilà, oui, ça peut arriver aussi.
Ça peut arriver aussi.
C'est déjà arrivé par le passé, mais voilà. C'est comme l'a souligné Dominique, la SPA regorge.
Oui.
Voilà, et à l'aube des grandes vacances, eh ben, on vient pas juste chercher un chien et puis arriver, on part en vacances, on le laisse sur le bas de l'autoroute. Ben non, en fait, ça ne se fait pas.
Bien évidemment.
Voilà, il faut prendre un chien ou un chat, peu importe,
voilà.
en conscience des obligations que ça implique.
En conscience, en toute responsabilité, même si elle a l'amour à donner.
Exactement. Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci
avec plaisir, merci. Dominique. À bientôt.
À bientôt.
Thank you. Cause you're a sky full of stars. Cause you love.